Qui a inventé les grandes découvertes? Par Patrick Boucheron. L'expression sonne avec l'évidence des catégories scolaires. Pourtant, les grandes découvertes sont une construction du XIXe siècle, au temps où l'Europe était sûre d'elle-même. Une page de notre histoire qui mérite d'être explorée avec un regard neuf. Qu'est-ce que naviguer sur autre chose qu'Internet? Parce que l'on pense désormais le monde comme un réseau, l'imaginaire informatique est en passe de le recouvrir entièrement, aspirant les rêves enfantins dans la découverte. Ceux qui ont commercialisé les premiers logiciels de consultation du web ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. S'ils ne se nomment pas Navigator ou Explorer, ils arborent fièrement une boussole comme icône. Les circulations qu'ils promettent sont immobiles et sans péril. Leur petite découverte n'en ménage pas moins quelques surprises. Et par exemple celle-ci. Que découvre-t-on en saisissant grande découverte dans le moteur de recherche des catalogues de bibliothèques? Des atlas, des encyclopédies, quelques synthèses, mais pour l'essentiel de la littérature pour jeunesse. Le passage du Cap de Bonne-Espérance par Bartholoméo Diaz en 1488, la traversée atlantique de Christophe Colomb en 1492, l'arrivée de Vasco de Gama à Calicut en 1498, le départ de Magellan de Séville en 1519, autant de tremplins à la rêverie qui semblent, de fait, ramener au plaisir de l'enfance. Mais s'il existe bien une connivence secrète entre l'appel du large et la passion des livres, ceux des historiens semblent aujourd'hui délaisser le thème des grandes découvertes. Ce désamour est surprenant lorsqu'on prend la mesure de ce que fut, pendant les Trente Glorieuses, l'engouement de l'historiographie pour cette aventure collective, dans laquelle elle voyait sans doute une métaphore des promesses de l'école des annales. L'énergie du décloisonnement, l'ouverture sur les dynamiques du monde, la circulation des produits et des savoirs, le triomphe d'une nouvelle rationalité. Pour comprendre la manière dont les historiens se sont depuis 30 ans détournés, avec un peu de dédain, de cette question d'histoire, et suggérer la manière dont ils pourraient aujourd'hui la réinvestir, il convient évidemment de revenir à la construction même d'un objet historique. Passion nationale, passion coloniale. C'est sans doute dans l'œuvre d'Alexandre de Humboldt, et notamment dans les 5 volumes qu'il fait paraître entre 1831 et 1838 sur la science nautique et la découverte du Nouveau Monde, que ce qu'il appelle les grandes découvertes maritimes d'Afrique, d'Amérique, de la mer du Sud et de l'archipel des Indes est saisi pour la première fois comme un tout cohérent. Issu d'une grande lignée de fonctionnaires prussiens, Humboldt s'embarqua en 1799 pour le compte du roi d'Espagne en une exploration du continent américain qui dura 5 ans. Celui qu'on appelle en Amérique latine le second colon s'y révéla un naturaliste de génie, et beaucoup le considèrent aujourd'hui comme le père oublié de la géographie moderne. Si l'historiographie des grandes découvertes prend donc son origine dans le contexte de la décolonisation des premiers empires coloniaux espagnols et portugais, elle ne se développe véritablement que dans les années 1880, au moment où le partage de l'Afrique entre les puissances européennes exalte les appétits et les passions nationales. Celle du petit royaume du Portugal s'identifie à l'audace de ses découvreurs, et les recherches historiques du vicomte de Santarém dans la première moitié du XIXe siècle les célèbrent au détriment de Christophe Colomb, ce favorisé du hasard, ou d'Amerigo Vespucci, génois vantard au service de la Castille. Dans les années 60, l'historien le plus important des grandes découvertes est un autre portugais, Vitorino Magalhães Godinho, collaborateur régulier des annales et interlocuteur privilégié de Fernand Braudel. Mais les arrière-pensées nationalistes résistent parfois. Les historiens portugais bataillent longuement contre une légende inventée au XVIIe siècle par un voyageur français du nom de Vilo de Belfond, qui prétendait que des marchands normands avaient fondé en 1364 au sud du Cap-Vert une colonie, le Petit Dieppe, antérieurement aux Portugais. L'historiographie française demeura longtemps encombrée de ces fables, comme celle qui mettait pareillement en scène un marin diepois du nom de Jean Cousin, qui aurait découvert le Brésil avant Cabral, dans les années 1480. Il faut attendre la thèse de Charles-André Julien, publiée en 1948, pour admettre l'évidence. La part de la France dans les découvertes maritimes est pratiquement nulle. L'inquiétude nationale et impériale de l'Espagne donna aux célébrations de 1892 leur portée particulière. Ce quatrième centenaire de la découverte de Christophe Colomb était en fait le premier que l'on fêtait. 100 ans plus tard, les certitudes étaient bien moins assurées, faisant dire à un Pierre Chenu désabusé « 1992 me semble un peu pâle. Comparé à la robuste pétulance de 1892, je ne risquerais pas 10 maravedis sur 2092. Nos très rares petits-neveux auront la tête ailleurs. » Mais si l'enthousiasme est retombé, la notion de grande découverte ne s'en est pas moins durablement installée avec la fausse évidence de neutralité des catégories scolaires. Elle devient en effet ce que les linguistes nomment un chrononyme, c'est-à-dire une expression figée désignant une portion de temps en référence à des événements, ou à une caractérisation qui doit lui donner sens. Ainsi parlera-t-on du temps de l'humanisme et des grandes découvertes pour désigner une période où la plupart des hommes en ignoraient probablement tout, Et lorsqu'on utilise pareillement l'expression comme une borne chronologique, les invasions barbares, on laisse sciemment planer le doute sur le fait que l'on parlera du monde ou du regard que les Européens ont porté sur lui. Nommer le temps, c'est le politiser. Et cette prise de possession du monde par l'acte occidental de nomination est constitutive de l'idée même de grande découverte. Découverte ou conquête? Les grandes découvertes, en tant qu'expression, désignent à la fois un faisceau d'événements, leur interprétation implicite et l'ensemble de la période qu'ils semblent caractériser. C'est donc pleinement une invention d'historien. Certes, le terme de descubrimiento apparaît déjà sous la plume de Christophe Colomb, et l'idée de découverte n'est en rien un anachronisme, on peut même soutenir qu'elle constitue l'un des legs de la pensée médiévale à la modernité. Car contrairement à une idée reçue, les explorateurs du XIIIe siècle étaient tous prêts à bousculer leur certitude livresque par l'observation de la surprenante diversité du réel. A l'inverse, l'humanisme ayant au XVe siècle accru l'autorité du texte considéré comme une mise en ordre du monde, Christophe Colomb peine à voir dans ce qu'il découvre autre chose que ce qu'il a lu chez Marco Polo. Dire des explorations de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle qu'elles constituent de grandes découvertes renvoie à leur audace et à l'importance de leurs conséquences à long terme. Davantage, cela les constitue d'emblée comme une révolution de la connaissance par laquelle l'individu occidental prend conscience de l'intensité de son moi en même temps que de l'immensité du monde. Est-ce ainsi que les contemporains les ont perçus? Sans doute en partie pour quelques-uns d'entre eux. Que l'on songe par exemple au grand érudit italien Poggio Bracciolini, dit le Poge, en 1424, il écrivait son admiration à l'infant Dom Emérique, dont on disait qu'il avait convaincu son père, le roi de Portugal, de s'emparer du port marocain de Ceuta en 1415 et favoriser depuis lors l'entreprise de saisie cartographique et maritime des archipels et des côtes africaines, au point d'y gagner par procuration le surnom d'Henri le Navigateur. L'humaniste distingue et articule tout à la fois la découverte et la conquête. Car quoi de commun au fond entre la lente reconnaissance des côtes africaines par le cabotage des navigateurs portugais depuis la prise de Ceuta en 1415 jusqu'au franchissement du Cap de Bonne-Espérance en 1488 et la traversée atlantique de Colomb ou le périple de Magellan autour du monde? Les historiens peuvent bien aujourd'hui reconstituer des chaînes de causalité en remarquant que le contournement de l'Afrique rendait possible le voyage de Vasco de Gama, mais qu'elle prouvait aussi combien cette route maritime des Indes était longue et difficile, relançant le désir de les atteindre par l'ouest, ce qui était le projet de Christophe Colomb, mais aussi celui de Magellan. Reste que le lien entre ces différentes aventures n'était nullement perçu par les contemporains, et que leurs conséquences ne se cumulèrent que bien plus tard, au XVIe siècle. L'expression des grandes découvertes noue donc artificiellement des faits plus ou moins isolés en une séquence chronologiquement orientée. Ce qui l'oriente est évidemment la conquête de l'exploitation du monde par l'Europe occidentale. La prise de Ceuta n'est en rien la découverte d'un monde nouveau, mais un épisode de conflit entre les monarchies chrétiennes ibériques et les sultanats musulmans pour le contrôle de la Méditerranée. Faire de ce prolongement portugais de la Reconquista la reconquête de la péninsule ibérique sur les musulmans, le point de départ d'une aventure qui s'achève sur les rives du Nouveau Monde, c'est exprimer on ne peut plus clairement le rapport qui se noue entre reconquête chrétienne et conquête de l'Amérique. Le chroniqueur López de Gomara ne disait pas autre chose en 1552. Dès que fut achevée la conquête sur les morts, commença la conquête des Indes, de sorte que les Espagnols furent toujours en lutte contre les infidèles et les ennemis de la foi. Dans les archipels atlantiques notamment, Canaries, Madère, Açores, de premières expériences de colonisation avaient eu lieu dès le XVe siècle. Mais en arrêtant la période des grandes découvertes au retour, le 6 septembre 1522 à Sanlúcar de Barrameda, au nord de Cadix, du dernier des navires de la flotte de Magellan, tandis qu'au même moment le massacre des Indiens du Mexique par les troupes du conquistador Hernán Cortés a déjà commencé, les historiens en sauvent la pureté. De la conquête de l'exploitation coloniale du Nouveau Monde, les grandes découvertes forment donc le prélude innocent et glorieux. Elles les justifient d'une certaine manière, en manifestant de manière éclatante la supériorité scientifique et morale de l'Occident dans sa capacité à se saisir du monde. Scientifique avec les progrès de la cartographie, ou des techniques nautiques, qui sont une des expressions d'une appréhension plus globale d'un réel mathématisé, désenchanté, individualisé. Morale, dans la mesure où cet élan vers l'ailleurs témoignerait d'un esprit de curiosité, dont l'étymologie nous rappelle qu'il consiste à prendre soin du monde. World History contre européocentrisme. De tout cela, l'historien Pierre Chaunu était sans doute parfaitement conscient dès 1969, décrivant l'expansion européenne comme ce qu'il appelait l'explosion planétaire de la chrétienté latine en mal d'Europe. Il en proposait une histoire de longue durée, celle-ci commençait au XIIIe siècle. Surtout, il dénonçait, il est vrai sans en tirer toutes les conséquences, l'européocentrisme total, sans complexe et inconscient que véhicule cette historiographie. Seule compte l'Europe qui prévoit, entreprend, agit et découvre. Elle est à elle seule le monde. Le reste est objet. au biais de sa connaissance. On ne saurait mieux dire ce que la World History a entrepris de déconstruire à partir des années 80. La prétention occidentale à universaliser son point de vue sur le monde. Dès lors, si l'historiographie des grandes découvertes est aujourd'hui à refaire, c'est non seulement en la médiévalisant, comme le suggérait Pierre Chenu, mais aussi en la mondialisant, c'est-à-dire en l'intégrant dans la globalité d'une histoire-monde. L'école des annales ne l'ignorait certes pas, mais demeurait, à la suite de Fernand Braudel, obsédée par le face-à-face entre l'Europe et la Chine. Pourquoi nous et pas eux? Pourquoi les expéditions chinoises de l'amiral Zheng He tournent-elles court en 1433? La réponse, pensait-il, était à trouver dans les indicateurs économiques. On sait pourtant aujourd'hui qu'il n'y a nulle avance européenne en la matière avant la révolution industrielle. La vraie divergence au XVe siècle porte peut-être sur des formes politiques de la territorialisation et oppose des empires, alors dominants des Incas à la Chine des Ming, en passant par l'Europe centrale ou le monde ottoman, au système d'État comme celui des monarchies occidentales. Or, on peut faire l'hypothèse que c'est dans la tension entre la solidarité économique et la concurrence politique des péninsules italiennes et ibériques que se retrouve le ressort de l'expansion. Une telle dynamique demeure toutefois incompréhensible si l'on n'accepte pas d'élargir la focale géopolitique à l'ensemble des mondes, interconnectés mais séparés, qui trame une histoire globale du XVe siècle. Celle-ci trouve sans doute son point de départ avec la mort du sultan conquérant turco-mongol Tamerlan en 1405, laissant son empire sans postérité. En dominant dans la seconde moitié du XIVe siècle l'Asie centrale, l'Iran, la Syrie, la Turquie d'Europe, avant d'envisager de soumettre la Chine, Tamerlan avait ouvert la possibilité d'une autre mondialisation, celle qui depuis le XIIIe siècle faisait de l'Asie centrale le cœur du système spatial de l'ancien monde eurasien, de la mer du Nord à la mer de Chine. Ce sont bien en tout cas les grandes dynamiques du monde turc qui donnent la pulsation d'ensemble à l'histoire du XVe siècle, sultanat mamelouk, empire ottoman dans tout l'océan Indien. Lorsque les navigateurs portugais font irruption dans l'océan Indien en 1498, ils ne découvrent pas plus une terre nouvelle qu'ils n'inventent une route, mais remontent les courants d'échange d'un système spatial déjà constitué. Étudier la manière dont celui-ci les oriente et les contraint oblige à changer de point de vue. C'est ainsi que Sanjay Subramaniam observe les choses, non pas depuis le pont supérieur des caravelles portugaises longeant la côte de Malabar, mais depuis la ville indienne de Calicut, ou sur le quai de Malacca, où les attendent les négociants gujarati ou malais, chinois ou iraniens. Par ce décentrement du regard s'invente une autre histoire des grandes découvertes, à la fois plus complète et plus inquiète. C'est toujours sans doute notre histoire, à ceci près que la valeur du nous a changé.